c'est l'artichaut.
Artichaut,
c'est l'artichaut.
Artichaut, le moment où on parle d'art. Hola.
Hola, hola.
C'est le moment où on parle d'art.
Oui. Alors, ben voilà, bonjour.
Bonjour Carotte.
Bonjour Jeanne, qui est aujourd'hui dans le studio avec nous.
Bonjour.
Trop bien, un trio de filles.
Oh yeah.
Alors, bon, ben, il va faire chaud. Donc, comme nos collègues de Radio Nova et Eric Lompré, l'actualité n'attend pas. Hein, même, elle est tellement rapide qu'elle brûle comme un incendie de forêt à Los Angeles. Et du coup, pour ce petit artichaut, je voulais qu'on parle de la collection du musée Getty, pourquoi le musée Getty était toujours debout et qu'est-ce qu'il y avait dedans et un peu l'histoire derrière la famille Getty, Jean-Paul Getty. Et voilà, puisqu'on n'aura sûrement pas la chance d'aller visiter ce musée avant bien longtemps, autant en avoir le maximum d'informations possibles.
Très bien, merci pour ça.
Bah, je vous en prie. Et comme petite intro, j'ai choisi de mettre notre ami Rocking Squat avec I'm Not Hollywood.
Ready. Fire, Hollywood. Fire, Hollywood. Hollywood. Fire, Hollywood. Fire, Hollywood. Burn.
Je ne ferai jamais les Beatles, car je ne suis pas CIA. Je suis ni Jay-Z, ni Mick Jagger, Madonna. Ne m'appelez pas Paramount, ni Fox, ni Columbia. Faites tripper les incultes, G.I. Joe n'est pas mon soldat. Calistoc et Stanford Research Center. On manipule plusieurs générations avec le rock comme moteur. Appuyé par 100 doses et l'endose de LSD. Ça fait longtemps que la Suisse est du côté des enculés. Je ne suis pas Hollywood, car je ne dépends pas de contrat. Si tu me casses les couilles, va niquer ta mère mon gars. Je ne suis pas Hollywood avec les mains sales peines de stéréotypes. Les livres qui véhiculent les pires clichés dans les pays qui profitent. Le côté maléfique de leur économie. T'as raison, continue à ne pas croire aux Illuminati. T'as raison, continue à bouffer chez McDonald's. T'as raison, continue à croire en Mickey et Donald. Hollywood. Je sens comme l'odeur d'une révolte qui monte dans les airs. Hollywood.
Hollywood.
Je sens comme l'odeur d'une révolte qui monte dans les airs.
Hollywood.
Dans la musique, il n'y a pas de messages subliminaux. C'est les putains de punchline qui écrasent tous les fachos. Alistair Crowley n'est pas mon maître à penser. Va le dire à Jimmy Page, Ozzy Osbourne et McCartney. Aquarian, l'âge du verso. De nouveaux mots sont apparus pour de nouveaux idéaux. Peace and love, jeune beatniks, new age hippie. Au moins on sait à quoi Woodstock aura servi. Je ne suis pas Hollywood, je suis plutôt Clint Eastwood. Je prends des chefs d'œuvre indépendants et tout le monde fait les gueux. J'ai la formule secrète comme le message des Toltecs. Aucun chèque n'achètera l'harmonie de la planète. Je ne suis pas Hollywood, car je ne suis pas 2012. Je suis pas charcutier, croisette, co-alter, con, jalouse. Le sang des peuples qui ont défié l'autorité. À jamais mon rap sera du côté des opprimés.
Hollywood.
Je sens comme l'odeur d'une révolte qui monte dans les airs.
Hollywood.
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 Je sens comme l'odeur d'une révolte qui monte dans les airs.
Hollywood.
Eh bien, je kiffe cette découverte. Merci beaucoup, Carotte. Je ne connaissais pas du tout.
Ah, bah, Rocking Squat, il est excellent. C'est le grand frère de, Vincent Cassel.
Ah ouais, c'est, oh, je l'aime encore plus d'amour. Et c'est incroyable.
C'est celui qui a épousé une Brésilienne dans un favela. C'est avec qui il a fait un enfant et qui avait un groupe qui s'appelait Assassin, qui s'est transformé en Rocking Squat.
Okay.
Et il a fait des espèces d'opus musicaux que j'adore. Et puis là où il vit, ben, il se bat pour des petits festivals gratos, que les gens des favelas puissent avoir accès à la culture, des concerts gratos.
Mais trop
enfin,
bien.
Lui, de son côté, il est l'antithèse. Je crois qu'ils s'entendent très bien, les deux. Mais il est clairement l'antithèse
de son frangin.
Du train de vie et de la philosophie de son frère.
Après, Vincent Cassel n'a pas une mauvaise philosophie non plus, quand même.
Non, mais
il n'a pas
vivre...
le même mode de
non,
vie,
mais
quoi.
Bon,
certainement
voilà, c'est
pas.
Des gens qui ne vivent pas de la vraie
oui,
vie.
Oui,
lui,
c'est clair.
Lui, il est vraiment dans la vraie vie, quoi.
Eh bien, merci pour cette découverte, en tout cas. Et du coup, un nouvel album, là, Confession.
Oui, bah, il est d'un enfant du siècle. C'est déjà très ancien.
C'est déjà très ancien.
Donc, oui,
okay.
Bon, c'est pas la première fois qu'Hollywood brûle, hein, comme vous en doutez. Ouais. Et c'est pas non plus l'apologie de ce champ de ruines de la culture américaine. Mais cela dit. Donc là, on a plein la figure sur YouTube, les informations et tout ça. Donc ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'il y a un endroit qui n'a pas brûlé, c'est le Getty Museum. Donc il n'a pas brûlé, alors c'est très chouette, hein. Ben, c'est très chouette pour l'histoire de l'art, tout simplement, parce qu'il y a une énorme collection d'art mondial qui est stockée là-bas. Qui n'a pas toujours été acheté de manière légale et licite. Et d'ailleurs, le Getty Center a pas mal de casseroles au cul pour rendre des œuvres donc, à l'Italie, qui attend depuis 2007 la restitution d'environ 44 sculptures qui ont été pillées, tout simplement. Mais cela dit, comme le disent les Américains, c'est sans doute le plus beau musée du monde. Par son architecture et par la richesse de la collection qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai voulu partager avec vous un peu plus d'informations sur un peu l'histoire de ce musée et comment la collection a été réalisée. Et puis aussi d'un point de vue plus de bâtiment, pourquoi ce bâtiment-là a résisté aux flammes et il est vraiment au milieu d'un champ de ruines. Donc c'est à la fois merveilleux et quand même très surprenant puisque dans le même temps, on sait que des gens handicapés ont brûlé chez eux sans secours, avec leur enfant qui avait des problèmes moteurs et cérébraux. Donc pendant que des pauvres infirmes, on les laissait cramer dans leur maison, ce monument, ce Getty Center, a, comment dire, monopolisé pas mal d'aide et de pompiers pour aussi ne pas complètement cramer. Alors le créateur de cette énormité culturelle, il s'appelle John Paul Getty. Il est né à Minneapolis en 1892 et il va mourir dans un magnifique palais à Londres qui s'appelle Sutton Place. Il va mourir en 1976. C'est un industriel qui est le premier multimilliardaire parce qu'il va, créer la Getty Oil Company, donc du pétrole, hein, et le John Paul Getty Trust qui va devenir l'une des plus importantes fondations culturelles au monde. Donc c'est un pétrolier qui va, avec son argent en plus, créer une fondation culturelle qui va donc lui ramener du pognon aussi, puisque les fondations ramènent de l'argent, bien évidemment. Donc, sa marche des échelons du Forbes, c'est que donc en 57, le magazine Fortune, qui était le grand-père du Forbes d'aujourd'hui, le nomme l'homme vivant américain le plus riche du monde. En 66, le Guinness Record le nomme la personne privée la plus riche du monde. Donc sa fortune à cette époque-là, c'est à peu près l'équivalent de 21 milliards de dollars de 2018. Et en 96, il est classé parce que bon ben vous savez, il y a eu beaucoup de millionnaires, ils se sont reproduits comme des souriceaux. Et en 96, il est plus qu'à la 67e place des Américains les plus riches, mais c'est ceux qui sont comparés au produit intérieur brut des États-Unis. Donc alors il est mort lui en 73. Donc, il n'aura pas vu ça en 96. Et en fait, ce monsieur est tristement célèbre pour son avarice. Eh ben oui, c'est un gros rapia. C'est même le plus gros rapia qu'on connaît. Alors, comment on le sait ? Ben, déjà, en fait, c'est que ces femmes ont toujours parlé de son avarice et qu'en fait, il va être au milieu d'un scandale assez triste en 1973, puisque son petit-fils, qui habite en Italie, va être enlevé par un mouvement terroriste dont j'ai oublié le nom. Et donc, on va lui demander une rançon de 7 millions de dollars. Il ne va pas vouloir payer. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dealé avec les rapteurs, qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait 2,2 millions de dollars qui pouvaient défalquer des impôts. Et donc, il va sortir en fait en cash et il va s'arranger avec le rapteur de son petit-fils pour lui filer 800 000 balles. Et en fait, les 800 000 dollars, il va ouvrir un prêt à 4% à son fils, c'est-à-dire parce que lui, il est grand-père du petit-fils enlevé. Donc en fait, à son fils, il va lui offrir un crédit de 800 000 balles qu'il a payé au Raptor avec un pourcentage de 4%.
Oh merde.
Et donc, en fait, il va en fait, se faire rembourser la rançon qu'il a payée de son petit-fils par son fils.
Ouais, non, mais...
Donc, du coup, ça a fait un scandale. Oh, wow. Non, mais franchement, ça a fait un grave scandale. Et il y a un film qui est sorti à propos de ça. Donc, je vais vous le dire direct parce que comme c'est chaud, c'est chaud. Donc, je le trouve pas là, c'est sur mon autre page. Bon, je vous le dirai à la fin quand je vais retomber sur mes notes. Donc, c'est un super radin. Et donc, ces femmes disaient que oui, c'est vrai, il était vraiment passionné au départ d'Antiquité, mais qu'en fait, il se donnait jamais les moyens pour acquérir une œuvre à son vrai prix. Donc, il a pas arrêté de fouiller et de chercher pour avoir vraiment des bons plans, parce que justement, il y avait un down au niveau des collections, par exemple, du 18e ou du 19e. Elles n'étaient pas du tout à la mode, alors il chopait des lots pour vraiment pas cher. Il se baladait aussi partout, donc il n'a pas arrêté de se balader dans le monde et il a super enrichi sa collection parce qu'il était très intéressé par l'Europe. Donc au départ, les collections grecques, romaines et étrusques. Donc la collection là-bas, ça va de moins 6500 avant Jésus-Christ jusqu'à 450 avant Jésus-Christ. Donc, c'est quand même énorme. Je crois qu'il y a environ 140 000 œuvres d'art qu'on peut voir. Alors, c'est sur deux bâtiments. Donc, d'abord, il y a eu ce qu'on appelle la Villa Getty, donc qui s'est sortie des flammes aussi. Donc, la Villa Getty, elle est faite sur le plan architectural d'une villa qui est à Herculanum, en Grèce, et qui s'appelle la Villa des Papyrus. C'est une villa qui a été détruite par l'incendie du Vésuve, qui a pris Pompéi et qui a pris aussi une partie d'Herculanum. Donc, il y a eu des fouilles. Et Getty a participé de ces fouilles. Il a vu cette villa qui était somptueuse et il a refait exactement le même plan de cette villa romaine pour sa première villa. Donc là-dedans, il a commencé à entasser essentiellement de la sculpture, mais aussi des stèles funéraires et des objets peints et des bijoux. Et puis quand il y en a eu trop, il s'est dit qu'il fallait qu'il fasse un autre musée pour pouvoir, parce que la collection devenait de trop grande. Mmh. Et qu'en même temps, des gens qui étaient ses amis lui faisaient aussi don de certaines collections. Donc, c'est une collection qui s'est enrichie d'autres collections de gens richissimes qui savaient au bout d'un moment pas quoi faire de leur œuvre. Donc, entre 1954 et 1974, les œuvres vont être transférées à la Villa Getty, à Pacific Palisades, et enfin ouvert au public. Donc, il va écrire lui-même plusieurs livres sur ses collections, sur l'Europe et la France au XVIIIe siècle. Il va écrire un bouquin en 49, un bouquin en 55, un bouquin en 65.
Eh ben.
Donc, il est vraiment passionné. Donc, il va collecter quand même, malgré sa radinerie, donc, au moins 600 objets et œuvres d'art pour une valeur qui va finalement être supérieure à 4 millions de dollars, dans lesquels on trouve des Rubens, des tableaux du Titien, de Gainsborough, de Renoir, le Tintoret, Degas, Monet. Donc finalement, la collection de peinture, elle va aussi aller bien sur le 19e siècle et des tableaux dont on a parlé. Il a du Munch, il a du Van Gogh. Enfin, il a plein de tableaux de l'artichaut qu'on connaît, donc des vraiment célébrités.
L'artiste a utilisé son sang pour créer les rouges foncés.
Vous aimez l'argent ?
Le plus que tout.
Plus que tout.
À part le gala.
Manger, c'est plus important que de faire un tableau. On peut vivre sans peindre, mais si on ne mange pas, comme vous dites, on crève.
C'est dans les années 50 qu'il va commencer donc à se passionner pour l'art gréco-romain. Il va faire sa villa dans les années 70. Et ensuite, dans les années 80, il va y avoir le Getty Center qui va être érigé et qui est énorme, 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 énorme. J'ai retrouvé. Donc, le film qui parle de sa radinerie pour la rançon de son petit-fils, il est sorti en 2017, donc c'est pas si vieux. Ça s'appelle Tout l'argent du monde. Et en fait, c'est Christopher Plummer qui joue le rôle de John Paul Getty. Et c'était normalement Kevin Spacey qui devait faire le rôle, mais comme il a été accusé d'abus sexuels en même temps, ils ont pas voulu que ce soit lui. Donc, Du coup, bon, bah, voilà ces deux énormes bâtiments. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il va mourir en 76, sans voir le musée, en fait, il va pas avoir le temps d'aller le visiter pendant les 2 ans où ils ont été ensemble vivants. Donc, à sa mort, la fondation va récupérer 661 millions de dollars d'héritage. Donc, du coup, c'est pour ça que dans les années 80, ils vont faire l'énorme Getty Center, là, à Brentwood. Donc, pour ceux qui connaissent le film Pulp Fiction, c'est trop bien, parce que dans Pulp Fiction, ils se baladent dans tous les quartiers de LA qui sont en train de cramer. Donc, en fait, on les connaît. Et en fait, le plan initial était tellement énorme que les habitants de Brentwood se sont révoltés parce qu'ils ne voulaient pas avoir un aussi gros truc sur leur colline. Donc, ils ont un peu dealé avec les habitants. Et puis finalement, le musée s'est monté. Alors, il faut savoir que c'est un musée qu'on doit à un très célèbre architecte qui s'appelle Robert Mayer. Il a coûté 1 milliard. Ce bâtiment. Et il a été enrichi par la collection d'autres richissimes gens qui s'appellent les Fleischmann. Et puis, il y a sans arrêt des donations. Donc, il a dû être rénové parce que finalement, il était assez vieux. Donc, en 97, de 2006, en fait, de 97 à 2006, il y a eu des travaux de rénovation. Il y a eu encore 227 millions de travaux de rénovation. La Villa Getty a réouvert le 27 janvier 2006. Il y a un travail magistral qui a été réalisé parce qu'il y a vraiment un ensemble très sophistiqué de bâtiments avec des petites agoras, des aménagements de jardins, des jardins avec des plantes qui résistent aux incendies comme des agaves ou des cactus ou des plantes grasses. C'est vraiment un véritable écrin pour ce qu'ils disent, mettre en valeur une relique d'un autre temps et d'un autre lieu. Alors, dès 2007, il y a eu des polémiques avec l'Italie, qui donc ne cesse de dire que tout un tas de pièces qui sont à la Villa Getty ont été pillées et devraient être rendues. Certaines ont été rendues en 2011. Il en reste encore plein. Donc, on parle quand même là de 125 000 œuvres hein, qui sont à voir et qui sont stockées. Alors, quand même, truc super classe, c'est que l'entrée est gratuite.
Ah ouais.
Alors, ce qu'il y a, c'est c'est un peu bâtard. C'est que l'entrée est gratuite, mais tu dois réserver tes places. Et si tu es un groupe de plus de tant de personnes, tu dois payer une visite payante. Et la visite payante, elle est très chère. Genre, c'est genre, je sais pas, 150 euros pour 10 personnes et après, ça augmente. Mais bref, a priori, tu es tout seul. Tu veux visiter ça l'après-midi, aller te balader dans les jardins. A priori, tu peux.
Moi, j'aime bien cette idée-là.
Bah oui, moi aussi, j'aime bien cette idée-là. Surtout quand tu vois quand même la densité du truc qu'il y a à voir. Enfin, c'est bien plus grand que le Louvre, hein, je pense.
Bah ouais, ça a l'air d'être immense, mais immense.
J'ai bien envie de savoir ce que tu en penses.
Oh, mais j'adore la vie.
Mais j'adore la vie.
Concernant la construction de ce bâtiment et le fait qu'il ait résisté aux flammes. Alors, bon, primo, les pompiers ont eu ordre de protéger le site et plein d'hélicos sont passés balancer un peu des retardeurs et des trucs comme ça. Mais il est fait pour résister aux incendies et aux tremblements de terre. Il est conçu pour résister à peu près à tout. Il est fait entièrement de béton, d'acier. Et tout le tour, il est fait comme une forteresse, en fait. Il y a 300 000 blocs de travertin qui entourent les murs. Et cette pierre de travertin, elle est censée résister au feu. La toiture est couverte d'une couche de pierre qui a été écrasée. Donc, ce qui fait que quand des braises des petites étincelles arrivent sur le toit ne peut pas prendre feu. Les pierres font comme du sable, en fait. À l'intérieur, il y a une ventilation qui peut passer en circuit fermé. Et en fait, il est exactement conçu comme un sous-marin où chaque pièce pourrait être faite comme un caisson étanche. Dès qu'il y a un problème dans la pièce, toc, elle se ferme automatiquement comme un sous-marin. Les autres pièces ne sont pas impactées et le système de ventilation se met à l'intérieur. Et en plus, Les salles et l'entièreté du bâtiment sont en lien avec une réserve d'eau de 4 millions de litres d'eau qui se déclenche et qui arrose les jardins, les murs, bababi, bababa.
Je ne sais même pas si la Maison Blanche ou l'Élysée, c'est autant tout pareil.
Ah non, pas du tout. Mais c'est pour incroyable. Ça que je trouve que c'est drôlement bien d'en parler, ouais. Parce que bon, tout le monde n'a pas un milliard de dollars à mettre avec son architecte pour faire une belle maison. Mais cela dit, voilà ce qu'il faudrait faire pour que Hollywood arrête de cramer, quoi. Il vous faut tous une baraque à peu près à un milliard, tout en travertin, avec des murs de plusieurs mètres et puis des pierres écrasées sur le toit, comme un sous-marin. En fait, autant habiter dans un sous-marin. Les Russes vendent des sous-marins pas du tout chers en ce moment. Donc, n'hésitez pas, finalement, un petit sous-marin peut être aussi bien qu'un grand Getty Center.
Personnellement, j'adore l'artichaut. Cette émission qui parle d'art.
Pour parler de un peu la peinture qu'il y a aussi là-bas, puisque moi, c'est surtout la peinture que j'aime, la sculpture, bien sûr, mais beaucoup moins. Donc, ils ont plein de peintures allemandes ou scandinaves, dont du Cranach l'Ancien. Donc là, c'est du vers 1530, donc c'est quand même très ancien, et vieux et ancien, donc ça fait ancieux. De l'Edouard Munch, bon ça on connaît, hein, Nuit étoilée, 1893. Ils ont plein de peintures britanniques, comme du Joseph Bright of Derby, donc là c'est du 18e. Ils ont du Thomas Gainsborough, donc pareil, 1777-1778. Ils ont du Turner, de 1839. Ils ont un gars que je ne connais pas qui s'appelle John Everett Millais. Donc ça, c'est 1860-1862. Ils ont du Laurence Almatadema et du John William Woodward. Bon, on ne les connaît pas très bien, celle-là. Ensuite, ils ont de la peinture espagnole, comme José de Ribera. Ils ont du Goya. Donc là, ils ont le portrait de la marquise de Santiago qui est vraiment merveilleux. Donc plein de Goya. En peinture française, ben, du Georges de la Tour. Donc là, c'est 1625-1630. Du Nicolas Poussin, 1651. De l'Antoine Watteau. Donc ça, on les connaît tous, ces tableaux-là, parce qu'ils sont dans nos livres à nous de peinture. Donc 1718-19. Du Watteau encore, donc il a beaucoup de Watteau, il devait beaucoup aimer. Du Quentin de la Tour, du Chardin, du Greuze. Je découvre avec vous parce que je n'avais pas vu toute la liste, je m'étais arrêtée un peu avant. Du Fragonard, du Louis David. Alors c'est Jacques Louis David, hein, ce n'est pas le coiffeur. Hein, donc portrait de Suzanne Le Pelletier de Saint-Fargeau, 1804. Bon, là du Jacques Louis David, donc c'est un autre. Plein. Du Millet, on en a parlé. Du Degas, on en a parlé. Du Millet, donc c'est tous les vieux paysans qui font la terre. Du Courbet, du Manet, du Cézanne, du Renoir, encore du Degas, du Monet, du Sisley, du Caillebotte, Jaxellère, du Cézanne, encore du Manet, du Bourguereau. Bon, enfin, bref,
oui, après, il y en a, il y en a.
Bah non, mais c'est quand même assez fou parce que c'est des trucs qui devraient être chez nous.
Bah oui, ce que j'allais dire, c'est quand même beaucoup de noms qu'on connaît qui viennent de notre pays à nous.
C'est toute l'Europe et tout. Et bien sûr, du Rembrandt, du Vermeer. Bref, c'est vraiment énorme. Donc, chouette que ça n'ait pas brûlé. Et
pour, c'est déjà ça.
Quand même revenir un peu au monsieur, parce que j'ai oublié. Hein. Oui, alors quand même pour vous dire, ce monsieur John Paul Getty, là, en 1949... Il va dealer en liquide avec le roi d'Arabie saoudite, donc en 49, hein, pour 60 ans d'exploitation de la terre à la frontière entre l'Arabie saoudite et le Koweït. Donc, pendant 4 ans, il n'y a rien eu. Et puis, à partir de 1953, ça jaillit de partout. Donc, c'est un des premiers gars qui a dealé en liquide. Il a même appris l'arabe. Pour pouvoir reprendre les business du pétrole en Arabie Saoudite, donc en 49. Non, mais tu vois, c'est un précurseur. Il était très visionnaire du pétrole et de ce qu'il fallait, quoi.
Il y a un livre d'ailleurs qu'il a écrit, un livre How to Be Rich. Tu l'as cité. Enfin, t'as dit qu'il avait sorti beaucoup de livres,
pour
tu vois.
Œuvres,
mais
genre
comment devenir riche, voilà, si vous avez ce genre de perspective pour 2025.
Pour finir ce petit...
Dans la joie, tu as dit.
Dans la joie et la bonne humeur, j'ai choisi une chanson de Earth, Wind and Fire, hein, le vent, le feu et la terre. Donc, c'est exactement... Donc, respect. Et voilà, let's groove tonight. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. On est pressé parce que par le système du temps et tout, il y a les petits gars de Are You Ready qui doivent arriver derrière nous. Donc,
les studios sont pleins à craquer à RDY. En tout cas, merci de nous écouter.
C'était Carotte version feu follet. Je vous aime, je vous embrasse et à tout bientôt pour des bonnes nouvelles. Bisous.